Bonjour, bonjour, Yves au micro-micro pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne saurait déroger à la tradition. Je vous rappellerai donc, je vous apprendrai peut-être que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale et plus ou moins pertinente les petites images qui bougent quelque part depuis la fin du 19e siècle. Ce jour, dans 24 notes secondes, eh bien nous allons évoquer trop brièvement, hélas, la carrière d'une légende vivante du cinéma américain. Et quand je dis légende vivante, je le pense, puisque Isur Danielovitch, né le 9 décembre 1916 à Amsterdam, état de New York, eh bien est toujours des nôtres à l'heure où j'enregistre cette émission. Kirk, on tape du bois pour toi. Kirk Douglas, et oui, c'est lui, Isur Danielovitch, né donc en 1916 de parents émigrés de Russie, comme peut-être vous l'aurez deviné, qui fait ses débuts au théâtre dès 1941, mais qui bien évidemment connaîtra une gloire importante et rapide au cinéma, puisqu'il y débute en 1946 dans un film de Lewis Millstone, qui n'est pas n'importe quel réalisateur, qui s'appelle L'emprise du crime. Suivront quelques films, une petite demi-douzaine, dans lesquelles Kirk Douglas ne jouera que des seconds rôles, bien sûr, mais qui seront signés rien moins que Jacques Tourneur, Byron Askin, John Stahl et même Joseph L. Mankiewicz, puisqu'en 1949, année du basculement de Kirk vers la célébrité, eh bien, on verra Kirk Douglas dans l'un des rôles de chaîne conjugale A Letter to Three Wives, une petite merveille psychologique, comme d'ailleurs tous les films scénarisés et réalisés par Joseph Mankiewicz, avec donc Kirk Douglas dans les rôles principaux. Cette année-là, en 1949, eh bien, Kirk Douglas s'apprête à jouer aux côtés d'Ava Gardner et Gregory Peck un énième second rôle quand il refuse un cachet pourtant conséquent pour tenir le premier rôle dans un film réalisé par un inconnu sur un champion de boxe, un film qui s'appelle Le Champion, vous l'aurez peut-être deviné, réalisé par Mark Robson sur un scénario de Carl Foreman. Alors un petit budget, personne n'y croit trop, mais vous l'avez déjà deviné, le film est un triomphe et grâce à ce film, eh bien, Kirk Douglas se trouve propulsé au firmament des stars hollywoodiennes des années 50, firmament qu'il ne quittera plus guère jusqu'à sa retraite bien méritée. On va écouter un petit extrait de cette bande originale du Champion, The Champ, in English. Elle est signée de Dimitri Tiomkin dans 24 notes secondes. Le style musical si particulier, si reconnaissable de Dimitri Tiomkin pour un extrait de la bande originale du Champion, un film de Mark Robson, donc je vous l'ai dit, un film à petit budget avec des protagonistes inconnus, mais qui ne le resteront pas longtemps. Mark Hobson avait déjà tourné quelques petits films d'épouvante juste avant Le Champion. Ensuite, eh bien, il connaîtra un certain succès avec Les Ponts de Tokyo Ri et surtout L'Auberge du Sixième Bonheur avec Ingrid Bergman dans le rôle principal, qui sera un très très grand succès. Quant au producteur, ou plutôt au scénariste, pardonnez-moi, Carl Foreman, eh bien, on le verra lui aussi au scénario d'un film un peu plus connu peut-être que Le Champion, rien moins que Le Pont de la Rivière Kwai, signé de David Lean. Et enfin, Stanley Kramer, on oublie souvent les producteurs et pourtant, ils sont souvent à l'origine des films, de leurs succès comme de leurs insuccès d'ailleurs. Stanley Kramer, eh bien, lui deviendra l'un des plus audacieux et des plus indépendants producteurs du cinéma américain des années 60, puisqu'on lui devra notamment l'une des adaptations de La mort d'un commis voyageur, Ouragan sur le Kane et même L'équipée sauvage, avec Marlon Brando, si je me souviens bien. Et quant à Dimitri Tiomkin, bah lui, il était déjà très, très connu dans les années 50, mais le trio Kramer-Foreman-Tiomkin, déjà cité, se reformera en 1952 pour un film et une musique plus connue peut-être que celle du Champion. Le train sifflera trois fois avec Gary Cooper. « Si toi aussi tu m'abandonnes... » Oui, bon, je ne vais pas aller plus loin. D'accord, on va passer à autre chose. On va continuer à égrener la filmographie de Kirk Douglas qui, grâce donc au succès inattendu mais mérité du Champion, eh bien, tournera ensuite en vedette dans quelques films bienvenus, là encore avec des réalisateurs tout à fait prestigieux. On le verra dans « La femme aux chimères »,« Young Man with a Horn » de Michael Curtis, où il jouera un musicien de jazz. On le verra encore mieux dans Le Gouffre aux Chimères, cette fois en 1951, The Big Carnival de William Wilder, un film très acide sur le cirque médiatique et dont je suis bien certain, sans l'avoir revu, qui n'a rien perdu de sa pertinence et de son actualité. Et puis, il en tournera un certain nombre et non des moindres. On va voir Kirk Douglas en vedette dans un des westerns tourné par Howard Hawks en 1952. Alors, pour mes petites fiches ne se trompent jamais, Howard Hawks aura tourné 5 westerns dans 4 d'entre eux. C'est John Wayne qui jouera le rôle principal, La Rivière Rouge, aux côtés de Montgomery Clift, et puis la fameuse trilogie Rio Bravo, El Dorado, Rio Lobo, mais dans La Captive aux yeux clairs, qui est le film duquel je parle, eh bien, c'est Kirk Douglas qui tient la vedette. Alors, en français, donc, ça s'appelle La Captive aux yeux clairs, ce qui est un très joli titre. En anglais, ça s'appelle beaucoup plus simplement The Big Sky, et c'est un western absolument magnifique. Je me souviens, si je puis me permettre, ce petit souvenir cinéphilique d'enfance de Kirk Douglas, descendant de son cheval après une longue traversée des paysages de l'Ouest et commençant à danser avant même d'entrer dans un saloon. La caméra le suit et il continue à danser. Bref, la grâce et la maturité incarnée en Kirk Douglas. On écoute un extrait de la bande originale de ce film. Elle est à nouveau signée de Dimitri Tiomkin dans 24 notes secondes. Thank you. La partition beaucoup plus minimaliste que la précédente de Dimitri Tiomkin pour The Big Sky à la captive aux yeux clairs d'Howard Hawks 1952, un film qui mettait en vedette Kirk Douglas, notre héros de ce jour, Kirk Douglas qui présente la particularité par rapport à certaines vedettes du cinéma des années 50 de s'être très rapidement impliqué dans la production, voire dans la réalisation des films dont il était le principal interprète, même si dans mon souvenir il aura tourné lui-même en tant que réalisateur un ou deux films, puisque dès 1955, c'est-à-dire peu de temps après La Captive aux yeux clairs, eh bien, il fondera sa propre maison de production intitulée La Brina, du nom de sa mère tout simplement, et il commencera à s'impliquer de façon de plus en plus approfondie, parfois non sans, je dirais, réticence de la part des réalisateurs dans les films dans lesquels il était l'interprète principal. En 1952, on le retrouvera dans un des plus beaux films de Vincente Minnelli, un des plus beaux films d'Hollywood sur Hollywood. En anglais, ça s'appelle The Bad and the Beautiful, comme c'est beau. En français, c'est pas mal non plus, ça s'appelle Les Ensorcelés. Et cela bénéficiait d'une partition magique, une autre fois peut-être, de David Racine. Dans les années suivantes, eh bien, Kirk Douglas continuera, je dirais, à sélectionner soigneusement ses films en alternant des films un peu plus personnels, intellectuels, dirait-on, à Hollywood, mais comme on dit gauche à Hollywood, puisque en 1954, on le verra dans une très grosse production de Richard Fleischer intitulée 20 milieux sous les mers, adaptée bien sûr de Jules Verne. En anglais, ça se dit Jules Verne, en français, ça se dit pratiquement pareil. Il tournera aussi quelques westerns, notamment en 1955, L'homme qui n'a pas d'étoile de King Vidor, à la réalisation duquel il contribuera, non sans quelques tensions avec King Vidor. Et puis, toujours en 1955, il jouera le rôle principal de Ulysse, inspiré de la vie de Ulysse, un film de Mario Camerini. Alors, difficile de dire s'il ressemble physiquement à Ulysse, puisqu'on n'a pas gardé de photographie, ni même de film Instagram de Ulysse. Par contre, on peut dire qu'il ressemble de façon quasi obsessionnelle au personnage qu'il interprétera dans son film suivant, un film signé, là encore, de Vincente Minnelli, intitulé en français « La vie passionnée de Vincent Van Gogh ». Quand on pense que maintenant, on garde tels quels les titres anglais, à l'époque, on les traduisait, et on les traduisait de façon développée, puisque en anglais, « La vie passionnée de Vincent Van Gogh », ça s'appelle tout simplement « Lust for Life ». Je vous laisse traduire par vous-même. Et donc, Kirk Douglas y interprétait le rôle de Van Gogh, tandis qu'Anthony Quinn y tenait celui de Gauguin, le tout sous la direction d'un réalisateur de comédie musicale, donc on pouvait s'attendre au pire. Et en fait, il n'en était rien, puisque la vie de Vincent Van Gogh, la vie passionnée, etc., est sans doute l'un des films les plus convaincants sur le destin tourmenté de ce peintre auquel, je dirais, Kirk Douglas apporte un charisme tout à fait exceptionnel qui lui valut de frôler l'Oscar cette année-là. Mais c'est Yul Brynner pour Le Roi et moi qui l'obtint. On aurait pu préférer effectivement que ce soit Kirk Douglas, et en guise de l'autre consolation, eh bien, Anthony Quinn obtint lui le rôle, l'Oscar du second rôle pour le personnage, si on peut dire, de Gauguin. Quant à la musique de ce film, elle était signée du grand Miklós Rosa, et on va en écouter bien évidemment un extrait dans 24 notes secondes. Le lyrisme contenu de Miklos Rossa pour un extrait de la bande originale de Lust for Life, en français La vie passionnée de Vincent Van Gogh, un film de Minelli Vincente de son prénom avec Kirk Douglas dans le rôle de Vincent Van Gogh, et ma foi, il s'en tirait vraiment magnifiquement. C'est un très très beau film tourné sur les lieux mêmes d'ailleurs où avait vécu Van Gogh. Alors ça n'ajoute pas forcément quelque chose, mais ça nous change de la vision parfois exotique de Paris ou d'autres villes françaises ou d'autres villes européennes d'ailleurs, telles que reconstituées à Hollywood. Minelli avait recherché en l'espèce une certaine authenticité et y avait tout à fait réussi, même si pour une fois il faut bien reconnaître que le Van Gogh de Boris Pialat avec Jacques Dutronc dans le rôle principal, eh bien c'était autre chose. Mieux, il faut le reconnaître. Kirk Douglas, quant à lui, eh bien, il poursuivit sa carrière très brillamment, puisqu'en 1957, on le verra à nouveau dans un western, alors qui n'a plus grand-chose avec la grande époque des Hawks, des Ford, mais qui est quand même très très bienvenu et qui rencontrera un immense succès. Ça s'appelle « Règlement de compte à hockey choral » de John Sturges, avec à nouveau Dimitri Tiomkin à la baguette. Un succès tel qu'on en fera, non pas une suite, mais un film un peu comparable qui s'appelle « Le dernier train » de Gun Hill. Et entre « Règlement de compte à hockey choral » et « Le dernier train » de Gun Hill, eh bien Kirk Douglas aura eu l'occasion de tourner, excusez du peu, dans Les Sentiers de la Gloire de Stanley Kubrick et dans Les Vikings de Richard Fleischer. Alors, Les Sentiers de la Gloire, il y a peu de musique. Il faut rappeler aussi que ce film dans lequel Kirk Douglas avait beaucoup investi, puisque c'était sa société de production qu'il avait produit et qui raconte une mutinerie pendant la guerre de 14, une mutinerie réprimée de façon sanglante, ce sera mieux que sanglamment réprimée de façon sanglante. Eh bien, ce film, alors, on prétendit à l'époque qu'il avait été refusé par la censure française et de fait, il ne sortit que bien plus tard en France. C'est la réalité, les faits obligent à dire en fait que c'est la société de production qui, sachant d'avance sans doute que le film serait refusé par la commission, eh bien ne la lui proposa même pas. Quant aux relations entre Kirk Douglas et Stanley Kubrick, le premier ayant donné au second sa chance, car jusqu'alors Stanley Kubrick n'avait tourné que de petits films très très remarqués mais à petit budget, eh bien les relations entre ces deux-là ne furent pas, je dirais, de la meilleure eau. Il n'en fut pas de même, et c'est de ça qu'on va écouter un extrait musical des Vikings, puisque Richard Fleischer, donc le réalisateur, Kirk Douglas l'avait déjà rencontré quelques années plus tôt dans 20 milieux sous les mers, déjà cité, et que ce film, eh bien, c'était un des films préférés de Kirk Douglas, eh bien, c'est aussi un des films préférés de moi, puisque non seulement il y a Kirk Douglas qui est absolument inoubliable, inoubliable, avec son œil gauche crevé et en blanc, avec ses cheveux blonds, je l'ai sous mes yeux, assis impérialement sur un fauteuil de viking avec des peaux de bête et puis des chausses que j'aimerais avoir quand il neige. Bon, il neige rarement, mais j'aimerais bien avoir les choses de toute façon. Et aux côtés du charismatique et méchant Kirk Douglas, enfin méchant, il faisait son boulot de viking après tout, eh bien, il n'y avait rien moins que le couple le plus glamour de l'époque, en l'espèce Tony Curtis et Janet Leigh. Ces deux-là nous firent d'ailleurs un petit, puisque personne ne l'aura oublié. Jamie Lee Curtis, c'est la fille de Kirk Douglas et Janet Leigh. Et Les Vikings, c'est une merveille de film d'aventure des années 60 avec une magnifique musique signée de Mario Nashimbene. On l'écoute tout de suite dans 24 notes secondes.
Thank you.
Les Vikings, une partition de Mario Nashimbene, un film de Richard Fleischer, une petite merveille avec Kirk Douglas, Tony Curtis, Ernest Borgnine. Qu'est-ce qui fait bien le Viking, Ernest Borgnine, et Janet Leigh, qui est une Viking aussi à sa manière. Bref, un film d'aventure des années 60, comme on n'en fait plus, messieurs, dames. On peut même envisager un pèlerinage à Fort-la-Latte. Alors, je ne sais pas où c'est, mais je sais que c'est en France, quelque part. C'est là que fut tournée la scène finale, où on voit le duel de Tony Curtis et de Kirk Douglas, quelque part, évidemment. Au sommet d'un rempart duquel ils peuvent tomber. Bref. Alors, ce n'est pas tout à fait la conclusion, mais la demi-heure est presque déjà passée, alors qu'il resterait tant à dire sur Kirk Douglas. Je m'en voudrais de ne pas mentionner, car sinon vous ne le comprendriez pas, que Kirk Douglas est bien évidemment le père de Michael Douglas. L'homme a eu 4 enfants qui ont eu des fortunes diverses au cinéma, mais Michael Douglas a quand même fait sa petite carrière, à tel point que son père, qui n'est pas dénué d'humour, disait que pendant longtemps, on a dit qu'il était le père de Michael, que Michael Douglas était son fils, et maintenant on dit qu'il était le père de Michael Douglas. Mais certes, Kirk Douglas est dans tous les cœurs. Je m'en voudrais aussi de ne pas dire que l'homme a écrit son autobiographie, et que contrairement à bien des exercices comparables, le fils du chiffonnier, est un livre tout à fait remarquable sur la vie très, très, très pauvre de Kirk Douglas et de sa famille à leur arrivée aux États-Unis. Pendant les années 60-70, eh bien, l'homme tourna encore quelques merveilles. Je picore 15 jours ailleurs de Minelli en 1962. Je picore le reptile de Mankiewicz en 1970. Et puis, je picore aussi et surtout l'arrangement d'Elia Kazan, un film de 1969 où Elia Kazan raconte un peu sa vie, mais d'une certaine manière, c'est aussi la vie de Kirk Douglas, un film très très peu connu, avec là encore une musique de David Amran, un compositeur arménien un peu rare. Et on va se quitter en écoutant un extrait de la bande originale d'un film tourné en 1960. Là encore, une grosse production. 1960, c'était l'époque du péplum. Kirk Douglas y sacrifia avec Spartacus le rôle de cet esclave révolté. Stanley Kubrick était à la réalisation. Alex North était à la baguette. Kirk Douglas est toujours là. Tiens bon, Kirk, dans 24 notes secondes. Voilà, 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt, c'est you, bye bye.